Le Monde aujourd'hui avec Julien Corona.
Le Monde d'aujourd'hui de ce vendredi 24 février, Julien Corona au micro et Daniel Fortin à la réalisation. De retour à Montréal après un petit mois à l'étranger en France. C'est un plaisir de vous retrouver depuis le studio, cher auditeur. Et aujourd'hui, je reçois Rémi Villemur, essayiste et étudiant à la maîtrise en histoire. Rémi, on peut te lire dans plusieurs médias, on peut aussi t'écouter dans plusieurs médias, dont Cube Radio. Et tu viens nous discuter aujourd'hui d'un sujet qui te tient à cœur, un sujet qui est aussi assez intéressant quand on voit les différentes positions, les différentes évolutions du débat politique depuis le début de l'année. Affaire El Gawabi, chemin Roxham, langue française avec ses 13. C'est le nationalisme violet de la CAQ. Pourquoi tu voulais nous discuter de ça?
Mais en fait... Quand la CAQ a obtenu la majorité, une écrasante majorité suite à la dernière élection, à l'automne, à peu près tout le monde s'était enthousiasmé, s'était imaginé que la CAQ allait pouvoir agir, faire ce qu'elle voulait. En plus, on sortait de la pandémie. Il faut quand même rappeler que la CAQ a été prise avec une pandémie pendant la moitié de son premier mandat.
Ouais.
Et là, on se disait, c'est terminé, donc elle va pouvoir agir, elle va pouvoir aller de l'avant. Et pourtant... C'est un dur retour à la réalité là, depuis le retour des fêtes, parce qu'il y avait eu une petite session parlementaire avant les fêtes. Ça ne nous donnait pas une véritable idée de ce qui s'en venait.
Ouais.
Là, on revient des fêtes, on entre pour de vrai...
Dans le cœur.
Dans le cœur de l'activité politique. Et là, la CAQ ne fait qu'essuyer des refus. Même si elle a près de 90 députés à l'Assemblée nationale, même si Justin Trudeau s'en va peut-être en élection en 2023-2024 et qu'il a besoin du Québec pour obtenir au moins une minorité, et pourtant, la CAQ n'essuie que des refus. Tu l'as dit, je veux dire, les C-13, les transferts en santé, il y avait eu les pouvoirs en immigration, le chemin Roxham, le CRTC aussi, ça c'est un dossier qu'on n'a pas vraiment suivi, mais... La loi sur la radiodiffusion oblige le CRTC à consulter les communautés de langue officielle qui sont en situation minoritaire, et elle ne le fait pas.
Elle consulte les communautés sur les langues en situation minoritaire dans le reste du pays. Par exemple, pour les francophones dans le reste du pays, elle dit qu'elle les consulte. Certaines communautés, par exemple, il y avait un article qui était sorti dans ONplus.ca, le journal de la communauté francophone Ontario, qui expliquait que, oui, ils disent qu'ils consultent, mais ils ne consultent pas vraiment. Donc, c'est une bataille un peu de parole, mais sur l'aspect québécois, ils se disent qu'ils ne sont pas obligés de les consulter, car ils sont en situation majoritaire, mais ça, on peut en parler. C'est pas une vraie situation majoritaire quand on prend à l'échelle du pays et quand même on prend aussi à l'échelle de la loi.
Oui, exactement. C'est ça. C'est que les francophones au Québec sont effectivement majoritaires au Québec, mais ils sont minoritaires dans le Canada. Et le CRTC est au courant, je pense, que le Québec appartient toujours au Canada. Donc, c'est un enjeu qui s'ajoute toujours à la longue liste des problèmes que la CAQ a quand elle arrive à Ottawa pour négocier, parce que son nationalisme, elle a du mal à l'assumer. C'est un nationalisme qui est très criard, hein, c'est le marketing du rugissement sans conséquence, c'est-à-dire qu'on demande des choses et on se les fait refuser, et par la suite, on ne dit pas, ben écoutez, on va peut-être aller plus loin cette fois-ci. Hein, on pensait peut-être que François Legault était le nouveau Daniel Johnson, hein, qui avait dit égalité ou indépendance au milieu des années 60, mais François Legault est très, très frileux. Son nationalisme violet tire de plus en plus vers le rouge, maintenant que la loi 96 et la loi 21 ont été adoptées. Il n'y a pas vraiment de chantier d'importance en matière de nationalisme qui sont devant, en tout cas, à moins qu'on nous prépare quelque chose. Mais moi-même, mes contacts me disent que c'est assez mort sur cet enjeu-là. Je pense qu'on veut un mandat économique, on veut assurer les pouvoirs régaliens de l'État. Finalement, on veut faire comme les libéraux.
C'est ça, et au niveau du pouvoir économique, l'exemple parfait peut-être, et je ne sais pas ce que tu en penses, est-ce que la position de Pierre Fitzgibbon, sa mise en avant, son tassage qu'il a pu faire dans les grandes, par exemple Hydro-Québec, ce qui se passe avec la direction, où c'est « je décide, vous exécutez », façon de parler, comment il fait comprendre au conseil de direction d'Hydro-Québec comment ça va être à la suite de Sophie Brochu quand elle sera partie. Est-ce que tout ce genre d'éléments joue en faveur de ton constat?
Ben, c'est un très bon point que tu amènes, Julien, parce que sur la question d'Hydro-Québec, il y avait effectivement deux visions qui s'affrontaient, et la vision de Sophie Brochu était plus une vision nationale, c'est-à-dire que Hydro-Québec appartient aux Québécois et doit servir les Québécois, et avant d'imaginer que Hydro-Québec...
Le dolorama de l'électricité.
Exactement. Avant qu'on songe à d'autres expansions pour Hydro-Québec, ben, il faudrait que les services soient vraiment efficaces déjà au Québec. Et ces deux visions-là se sont affrontées. Et si Fitzgibbon a gagné, c'est que François Legault a gagné. Mmh. Donc, ça veut dire que François Legault défend Pierre Fitzgibbon sur cette question-là. Ça veut dire que sur la question d'Hydro-Québec, on est plus dans une logique marchande, plus une logique d'étendre Hydro-Québec en dehors du Québec, donc de sortir Hydro-Québec du Québec.
Mmh. Et donc, à partir de ce nationalisme violet, comme tu le dis, en plus, ce qui est assez drôle, c'est que cette question violette s'est attribuée par un des ministres de la CAQ, et pas n'importe laquelle, une des ministres même, Geneviève Guilbeault. Donc, on voit un peu toute cette expression, c'est vraiment l'aspect, le côté fédéraliste de la CAQ qui l'emporte encore plus. Chose assez drôle, c'est que depuis hier, on a une commission parlementaire dans le cadre des pratiques et dans le cadre des attitudes au hockey mineur et au hockey dans les ligues mineures et dans les ligues de développement du hockey. Et on peut le voir un peu, on le voit au niveau du travail des parlementaires. On a eu par exemple Pascal Bérubé qui en a été dire à une de ses anciennes collègues qui dit « qu'est-ce que vous faites à la CAQ ?» Donc c'est on est né à ce point rendu là que cette question violette vient s'imbriquer dans tous les types de débats que la politique québécoise peut mener.
Absolument. Et il faut déjà, je pense, François Legault n'est plus très très jeune, là. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est rendu plus proche de 70 ans que de 55 ans, 60 ans même. Donc, faut se demander qu'est-ce qui va se passer quand François Legault va tirer sa révérence. Qu'est-ce qui va arriver avec la CAQ? C'est-à-dire que c'est une coalition entre des bleus et des rouges. Mais là, on a l'impression que sur l'ensemble des points, ce sont les rouges qui gagnent au caucus. Faut pas l'oublier que Simon Jeannin Barrette a été tassé. On essaie de nous faire croire que c'était parce qu'il avait des enfants puis qu'il voulait s'occuper de sa famille. Sauf que n'importe qui connaît Simon Jeannin Barrette, de près ou de loin, sait qu'il n'avait pas le profil de quelqu'un à son âge qui avait l'intention de prendre moins de tâches, en fait. Donc, il avait l'intention de continuer, mais on l'a tassé. Qui l'a tassé? Ben, écoutez, là, faut pas chercher midi à 14h. C'est les gens au caucus qui sont plus du côté fédéraliste.
Et surtout, certaines personnes vont dire aussi que c'est potentiellement pas vraiment les gens au caucus, mais ça serait les gens un peu dans le cadre de la direction de la CAQ, dans le cadre de la permanence de la CAQ, qui sont même extrêmement fédéralistes. Quant au caucus, ils seront quand même assez nationalistes. Et on va dire, au pire, s'ils sont nationalistes mous, ils sont plus du nationaliste proche de Dumont, d'un Mario Dumont, qu'un nationaliste assez mou, tel qu'il peut exister, au niveau de la gauche du Parti libéral. Donc c'est surtout... Les rumeurs, ça serait au niveau de la permanence, une permanence extrêmement fédéraliste qui fait en sorte que ce nationalisme violet s'inscrit de plus en plus. Et est-ce que, sur un aspect politique, on voit la CAQ, on voit sa prééminence dans la politique québécoise, et de l'autre côté, on voit les derniers sondages pour Justin Trudeau, et qui est en baisse même au Québec, où le Bloc est en train de se créer une grosse avance à la suite des différents échecs, donc El Gawabi, CRTC, tous ces C13 et tous ces éléments-là. Est-ce que tu penses que ce nationalisme violet pourrait être tassé pour raison d'opportunité politique quand on voit une chute des libéraux fédéraux au Québec en ce moment?
Je pense pas. Je pense qu'au contraire, si le Bloc monte au Québec, la CAQ devrait normalement être plus bleue que rouge, c'est-à-dire qu'elle devrait suivre cette tendance-là. Moi, je pense que ce qui est en train de se passer, c'est un bon point que tu amènes avec la permanence, mais il faut aussi regarder quels sont les ministres qui prennent de plus en plus de place dans l'espace public, parce que ce sont eux qui vont potentiellement remplacer M. Legault, ou alors qui vont prendre la direction de cette tendance-là qui risque de se déployer suite au départ de M. Legault. Donc, qui sont ces ministres-là? Ben, on a par exemple Mme Lebel, on a Mme Guilbeault, on a Fitzgibbon, Dubé également. C'est pas important si ces gens-là vont être ou non les prochains chefs de la CAQ. On pense à M. Dubé, je pense pas que ça l'intéresse.
Ouais.
Mais ce sont les députés qui sont le plus de l'avant, les ministres qui sont le plus de l'avant.
C'est ceux qui font le mouvement et la dynamique, façon de parler.
Ouais, et M. Roberge, on l'entend un peu, mais on l'entend moins que lorsqu'il était à l'éducation. Puis M. Jeannin Barrette, on ne l'entend plus. Donc, c'est ça qui est en train de se passer. C'est que quand vous jouez à Twister, puis vous avez un pied sur le rouge, un pied sur le bleu, ben, vos fesses sont sur le mauve. Et quand vos fesses sautent au sol, vous ne pouvez plus avancer.
Et donc, à partir de là, ça ouvre potentiellement des ouvertures pour les différents partis à l'Assemblée. Ça permet un peu de continuer à parler d'actualité politique. On peut voir en ce moment que malgré 3 députés, le Parti québécois s'en sort au niveau des enquêtes d'opinion, et même au niveau des financements, il est en avance de plusieurs centaines de milliers de dollars sur le financement annuel par rapport à la CAQ, et ce malgré ses performances assez basses dans les élections. Et on voit même qu'il dépasse très facilement Québec solidaire. Vous pouvez consulter au niveau du bureau du directeur général des élections les données par rapport aux financements électoraux, cher auditeur. Est-ce que tu penses que ce genre d'éléments, ce genre de données permettent d'indiquer peut-être une potentielle dynamique et que la CAQ, en fait, finalement, à force de jouer à Twister et de s'enfarger de la sorte, elle pourrait se faire du mal elle-même pour les prochaines élections dans plusieurs années?
Les prochaines élections, c'est très difficile à
anticiper. C'est la politique fiction.
Oui, effectivement, mais je ne sais pas. Je ferais quand même une différence entre ce qu'on observe aujourd'hui, toi et moi, à propos de la CAQ et ce que les Québécois vont tirer comme leçon et ressentent. Parce que je pense que la CAQ est un parti qui gagne toujours en popularité auprès des Québécois. François Legault est le plus populaire, même si M. Plamondon est deuxième. Je pense pas que les Québécois sont prêts à retourner vers le Parti québécois, et je pense pas du tout que les Québécois sont prêts à aller vers Québec solidaire. Ça, c'est même pas encore un scénario possible dans ma tête. Je pense qu'il y a une lune de miel qui est pas terminée, sauf que le Parti québécois va se mobiliser autour des limites du nationalisme violet. C'est-à-dire que lorsque la CAQ va se faire... il y a un débat en ce moment à savoir qu'est-ce qui va se passer quand la loi 21 et la loi 96 vont être déboutées devant la Cour suprême. Il y a comme deux écoles de pensée. Là, il y avait un débat que Philippe Lorange, que tu connais bien, avait organisé à l'atelier Le Livre Voyageur il y a quelques mois. Ça opposait Mathieu Bock-Côté et Jacques Beauchemin. Mathieu Bock-Côté, lui, il pense que la loi 21 et la loi 96 vont être déboutées en Cour suprême et ensuite les Québécois vont rencontrer ce moment important de l'histoire et vont décider de faire l'indépendance. Jacques Beauchemin, lui, pense plutôt que les Québécois vont à nouveau refuser l'indépendance. Mais moi, je pense que la CAQ ne présentera même pas cette idée-là. C'est-à-dire que c'est avant toute chose, avant de savoir comment les Québécois vont réagir, il faut bien voir comment la CAQ va présenter ça aux Québécois. Et si la CAQ continue sur cette lancée-là, eh bien, elle va encore une fois s'asseoir, elle va se coucher, elle va s'incliner, et il n'y aura pas cette possibilité-là d'aller de l'avant.
Est-ce que tu penses aussi, dépendant des élections, ça permet de revenir un peu sur l'actualité fédérale, le timeline, la grille de temps sur le passage en Cour suprême, excusez-moi de l'anglicisme, ça serait des fins d'année, début 2024 pour le passage des lois devant la Cour suprême. Potentiellement, on aurait une nouvelle majorité fédérale à ce moment-là. Est-ce que, par exemple, un Pierre Poilievre, pour raison politique, pour un peu de être bien avec le Québec, avec le gouvernement québécois dans le cadre de partenariat provincial et fédéral, pourrait éviter le passage en Cour suprême ou éviter que le gouvernement fédéral supporte ce passage et supporte les gens qui souhaitent amener ces lois devant la Cour suprême?
C'est un bon point que tu amènes. Il faudrait voir exactement. Ça va dépendre de l'équipe qui est en place à Ottawa à ce moment-là. Pour le moment, je pense pas que Pierre Poilievre a des chances. Je pense pas non plus qu'il risque d'y avoir une majorité à Ottawa.
Ouais, c'est minoritaire. 2024.
Ça risque d'être encore minoritaire. Les conservateurs gagnent le vote populaire depuis au moins 2-3 élections, mais ils ont perdu l'Ontario. Et c'est le territoire le plus important à remporter pour arriver à Ottawa à titre de gouvernement. Mais il faut aussi se méfier de Pierre Poilievre, parce qu'en ce moment, il essaie de faire en sorte que les Québécois soient convaincus que c'est l'homme de la situation. Hein. Il a demandé que le Roxham soit fermé d'ici 30 jours. Il a dit qu'il n'interviendrait jamais dans les compétences des provinces. Mais c'est une affaire très difficile à faire de gérer le Canada. Alors, à partir du moment où vous êtes au pouvoir, il faut être dur envers le Québec pour séduire le reste de l'électorat. Le Québec bashing, c'est très, très, très puissant. C'est une force mobilisatrice. Et mépriser le Québec, c'est payant électoralement.
Et payant électoralement au niveau de Pierre Poilievre, est-ce que peut-être en cas de la méfiance, on le voit en ce moment, il est à 38%, le Parti conservateur est à 38% dans le dernier sondage Abacus, qui est disponible depuis le début de semaine. On en a fait gros titre au Québec avec une chute des libéraux à 24 ou 26%, si je me souviens bien, à l'échelle du Québec. Une avance que les conservateurs au niveau fédéral à 38 face à 32 pour les libéraux n'ont jamais eu depuis 2015 et donc depuis en fait Stephen Harper face à Justin Trudeau, c'est quand même assez fort. Ça met par rapport à comment le vote est diffusé au Canada, les conservateurs en terrain minoritaire, ça met le bloc aussi assez fort à l'échelle du Québec, 32% face à 26% pour le Parti libéral. Donc ça met le bloc vraiment très fort à plus d'une trentaine de circonscriptions. Mais on voit en ce moment Pierre Poilievre faire la cour à Toronto et dans les banlieues de Toronto qui sont là où l'élection se joue. Et les banlieues de Toronto, c'est là où le Québec bashing, où on peut dire que le Québec est raciste car ils sont laïcs, ça fait gagner des votes. Est-ce que ce genre de choses, quand on voit Pierre Poilievre faire la cour à ces endroits-là, est un signe de méfiance que le lecteur doit avoir?
Oui, et moi, tu vois, je suis un petit peu moins optimiste que toi. Moi, le Québec bashing, je pense pas qu'il se concentre uniquement à Toronto. Je pense qu'on peut l'observer en Colombie-Britannique, on peut l'observer dans les Maritimes, on peut l'observer un peu partout en réalité, y compris en Alberta. Mmh. C'est juste une autre sorte de Québec bashing. C'est un Québec bashing qui n'est pas basé sur la vision laïque du Québec ou l'opposition au multiculturalisme. C'est une vision très frustrée et frustrante, en fait, aussi. Donc, là, en ce moment, c'est ça. Pierre Poilievre essaye, en fait, de voir là où... Je pense qu'il est à la recherche d'une stratégie. Mm. Il s'en va, il vient au Québec, il s'en va à Trois-Rivières. Il a lancé sa campagne, on se rappelle, hein, à la chefferie à Trois-Rivières. Et là, il se rend compte que la mayonnaise ne lève pas. Il s'en va en Ontario, dans le centre de Toronto, va rencontrer le pouvoir économique. Ah, est-ce que ça marche? Après, il va s'en retourner dans l'Ouest. Mmh. Hein? Et là où il va sentir qu'il y a véritablement le germe de quelque chose de fort, il va asseoir sa stratégie-là. Mais pendant ce temps-là, Justin Trudeau est en train de préparer la prochaine élection. Ouais. Et donc, il y a fort à parier que Justin Trudeau va l'emporter à nouveau.
Et sur un autre aspect, pour revenir sur l'aspect provincial, aussi dans le cadre des différentes digressions et dans le cadre des différentes stratégies, tu parlais de Québec solidaire tout à l'heure, tu parlais aussi de Gabriel, t'évoquais un peu Gabriel Nadeau-Dubois face à Paul Saint-Pierre Plamondon, excuse-moi. Et c'est pourquoi tu penses que ça ne lève plus? On voit Québec solidaire qui tente maintenant de lancer une tournée en région pour pouvoir comprendre comment les campagnes et comment les différentes régions pourraient se mettre à aimer, à vouloir voter Québec solidaire parce qu'ils voient un potentiel de progression ici. Mais de l'autre côté, on voit Québec solidaire qui souhaite, malgré ses différentes critiques et après le passage du Congrès la semaine dernière, qui souhaite continuer à asseoir un peu ce montréalisme qui fait le cœur de sa théorie politique. Donc, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que, pour te reposer la question que je pose à Guillaume Rousseau la semaine dernière, que j'ai posée aussi à d'autres invités avant, David Santarossa et Philippe Lorange, est-ce qu'on a atteint la limite du modèle Québec solidaire dans le cadre de l'électorat québécois?
Oui. Et d'ailleurs, il ne faut pas imaginer que parce que Québec solidaire est déjà sorti de Montréal, que Québec solidaire est capable de sortir de Montréal.
De manière pérenne.
Exactement, parce qu'il y a eu quelques accidents de parcours. Mmh. On pense par exemple à l'Abitibi, ça n'a duré que 4 ans. À Sherbrooke, il y a encore des gens qui pensent que Québec solidaire rentre parce que il y a des espèces de petites magouilles sur les campus où on fait voter des gens alors que c'est pas vraiment autorisé par la loi électorale. Après, il y a Québec. Québec, c'est un cas particulier parce qu'effectivement, je pense qu'il y a 3 députés de Québec solidaire à Québec. Donc, je pense qu'à Québec, ils sont capables de s'installer, mais essentiellement, c'est Montréal. La raison pour laquelle ils sortiront pas de Montréal, ils iront jamais au Saguenay, ils iront jamais en Gaspésie, c'est parce que les Québécois, il y a une seule chose, je pense, qui les dérange à un point tel qu'ils ne peuvent accepter de supporter cette chose-là longtemps, c'est le mépris. Mmh. Et Québec solidaire les méprise. Les méprise comment? Ben, les Québécois veulent la laïcité, Québec solidaire n'en veut pas. Les Québécois veulent moins d'immigration, Québec solidaire en veut davantage. Mmh. Les Québécois veulent défendre la langue française, Québec solidaire refuse. Mmh. Donc, cette espèce de façon de se retourner à chaque fois contre la volonté populaire, au nom d'une certaine hauteur d'esprit, au nom d'une certaine vertu, d'une morale supérieure, les Québécois en ont marre. Et ça passe à Montréal. Ça passe à Montréal parce qu'à Montréal, ben, il y a toute une espèce
d'agrégat de différents types de populations où ça peut marcher, et surtout quand on voit l'évolution des différents quartiers qui sont le cœur de l'électorat Québec solidaire à Montréal. Ce sont des quartiers qui ont totalement évolué sur leur composition et un peu sur, avec une bilinguisation, une multiculturalisation, où ce genre de sujet, il se considère plus comme montréalais, voire canadienne, citoyen du monde, que citoyen québécois. Donc avec ce genre de choses, le discours colle.
Oui, et puis il y a une certaine élite qui est concentrée à Montréal, une élite qui est convaincue, souvent ce sont des jeunes assez éduqués qui n'ont pas de difficulté à exprimer l'idée que parce que ils pensent pas comme la majorité, mais c'est parce que ils sont éveillés, en fait. Et là, je fais pas un lien avec le wokisme, oui, mais ils ont l'impression que un jour ou l'autre, on verra bien qu'ils avaient raison. Mm. Et donc, être à Montréal et dire, par exemple, ouais, mais fermer le chemin Roxham, c'est pas une bonne idée parce qu'en fait, avec les changements climatiques, il va falloir s'ouvrir éventuellement à l'immigration massive. Donc, on est contre la fermeture du chemin Roxham. Mm. C'est toujours cette espèce de posture d'éveil supérieure au plan moral qui est assez concentrée à Montréal. Je sais, je viens de Montréal et j'habite à Montréal et j'habiterai toujours à Montréal. Donc, je sais de quoi je parle quand même. Mais en dehors de Montréal, les gens en ont marre de ça. Et c'est pour ça qu'ils votent pour d'autres partis, des partis qui les regardent pas de haut.
À rentrée de France, un peu, ça me faisait penser quand avoir le débat politique, parce qu'en France, on avait le débat sur la réforme des retraites. Je comparais beaucoup, en sorte de parallélisme, Québec solidaire avec la France insoumise, avec la, et qui est dans le cadre de la NUP, là, dans le cadre de l'union des différents partis de gauche. Mais Québec solidaire, je voyais un peu l'élément de Québec solidaire qui était beaucoup, c'est ça, beaucoup plus dans cet éveil que la France insoumise au niveau de la gauche. On avait les aspects théorie nouvelle gauche, indigénisme, multiculturalisation, créolisation, comme le dirait Jean-Luc Mélenchon, dans des termes qui sont plus acceptables peut-être au niveau politique en France. Mais on gardait un peu le lien avec le respect grâce aux alliances avec le Parti communiste et d'autres anciens partis de la gauche traditionnelle. On gardait ce lien avec c'est nécessaire, ce genre d'évolution de la gauche pour continuer le combat ouvrier et continuer le combat du prolétariat, plus de meilleures capacités de travail, de meilleures conditions de travail, meilleurs salaires, meilleures retraites, ce genre d'éléments-là. Avec Québec solidaire, on voit que ce genre d'élément est assez, je pense, c'est pour ça que ça a fait une problématique, parce que c'est ce genre d'élément qui est au niveau de gauche, au niveau de discours qui peut pogner avec vous et moi normal en région, par exemple, qui sont plus intéressés par ce genre de débat, c'est ça qui peut les aider à pogner, mais sur une majorité, par exemple, de la base de Québec solidaire, certains groupes culturels, pour eux, dans le cadre de luttes intersectionnelles, non, ce genre de choses doit être vu sous l'angle d'un féminisme radical, sous l'angle d'une immigration à outrance qui permettrait de régler tel ou tel problème à la fin et de, dans le cadre d'une lutte mondiale. Et donc, à la fin, je pense que c'est ce genre de choses qui déconnecte Québec solidaire avec les régions et avec une population plus traditionnelle qui pourrait peut-être être incitée à voter à gauche. Qu'en penses-tu?
Ben, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. J'ajouterais que la gauche de Québec solidaire ressemble davantage à la gauche de Sandrine Rousseau, par exemple, oui, en France, qu'à la gauche de Jean-Luc Mélenchon. Donc, c'est toute l'histoire de la gauche, en fait, hein, qui historiquement est ouvrière, qui défend la majorité et qui, aujourd'hui, il y a eu une mutation et Québec solidaire incarne cette mutation-là. C'est une gauche des minorités et c'est une gauche qui est sermonneuse, qui pratique la censure, et qui regarde, en fait, la population majoritaire de haut, alors que c'était historiquement sa base électorale. Elle s'est retournée contre elle, comme une certaine forme de vengeance par rapport à l'échec du communisme. Mmh. On s'est dit, ah, ben, ça fonctionne pas, en fait, comme programme de défense de la majorité. On va se concentrer sur les minorités.
Et sur ce qui m'amène à la dernière question de cette entrevue, on parlait de mépris. Tu parlais de mépris tantôt. Le mépris aussi, dans le cadre d'un nationaliste violet, ça peut être inclus dans ce genre d'éléments où la question de prendre les gens pour des cons, façon de parler, en leur expliquant telle ou telle chose peut les aider sur un aspect nationaliste, alors qu'on sait qu'on ne fera rien à la fin, dans sorte un peu d'opportunisme politique, d'hypocrisie, ou ce genre de choses. Et cette question de mépris, d'hypocrisie politique, ça amène un peu à une question qu'on avait discutée avec Gabriel Jarvis, dans le cadre du remplacement que j'avais pu faire de Jean-Philippe Trottier à son émission Questions d'actualité, tous les jours à 12h15 après les actualités de Radio Vatican. C'était la question de la survivance. Est-ce que tu penses que la CAQ, avec son nationalisme violet, réadapte un peu cette notion de survivance québécoise, la rend un peu plus proche des simples pouvoirs régaliens tels qu'on veut le faire maintenant avec l'économie au cœur, l'économie un peu rendre les Québécois plus riches, plus proche d'un peu de Les Fitzgibbon, comme tu expliquais au début d'entrevue, Rémi. Et donc, façon de parler, on est de retour un peu à ce duplessisme, mais un peu plus cheap, adapté à notre époque, qui fait en sorte que cette survivance devient juste « on n'y arrivera jamais, autant se concentrer sur la création de richesses et basta pour le reste ».
Ouais, on pourrait même dire c'est un espèce de retour au Canada français, c'est-à-dire que on a abandonné un peu le destin du Québec et on est revenu à une idée bon de défendre, comme tu dis, les pouvoirs régaliens, la survie du français, l'espèce d'idée que l'on est encore un peu écouté à Ottawa, qu'on se fait pas complètement fermer la porte au nez, même si on se la fait quand même fermer au nez. Et t'as raison aussi de me poser la question sur le mépris, parce que ce qui est bon pour Québec solidaire est aussi bon pour la CAQ, c'est-à-dire que si le mépris fait en sorte que les Québécois ne voteront jamais pour Québec solidaire à l'échelle provinciale, eh ben c'est la même chose pour Québec, pour la CAQ. Hein. C'est le mépris de Jean Charest qui lui a coûté l'élection en 2012.
C'est ça.
Donc c'est la même chose qui pourrait arriver à M. Legault.
Ouais, donc tu penses que ça pourrait se retourner contre lui au bout d'un moment, parce que certains stratèges politiciens vont dire on va prendre les électeurs un peu pour débiles, mais au bout d'un moment, faut arrêter de le considérer les électeurs comme des gens qui sont un peu ignares ou non éduqués. Non, ils savent de quoi on leur parle, ils savent qu'est-ce qui se passe, ils comprennent un peu les dynamiques, et ce genre de choses peut se retourner contre le décideur et le stratège politique.
Oui, absolument. Et puis en plus de ça, je pense que ce qui aide en fait M. Legault, et au départ on pensait qu'il avait réussi à tout rafler parce qu'il était d'une qualité particulière, c'est vrai. Sauf qu'il y a aussi en ce moment un état lamentable des forces d'opposition. Le Parti libéral n'est plus parce qu'il était. Le Parti québécois, même si, bon, on en parlait tout à l'heure, réussit quand même à s'illustrer, ça reste quand même 3 députés à Québec. Et Québec solidaire, ça ne pogne pas en dehors de Montréal. Donc ça aide M. Legault. Mais à un moment donné, quand ces partis-là vont peut-être, un de ces partis-là va s'être relevé et que le mépris va continuer de s'être exercé, ben, les choses pourraient changer.
Ben, Rémi, on t'accueillera de nouveau pour discuter de tous ces sujets très intéressants, parce que ça fait pas partie de parler, ça permet de parler de politique, mais sur un angle plus réflexion, stratégie, philosophique sur ces questions-là, et c'est vraiment très intéressant. Rémi Villemur, auteur essayiste et étudiant à la maîtrise en histoire, c'est toujours un plaisir de pouvoir t'entendre à Radio VM ou aussi sur d'autres stations, et tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup, Rémi.
Merci, Julien.
C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour Le Monde d'aujourd'hui. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Passez une belle fin de semaine sur les antennes de Radio VM. Au revoir.